Jacques Rival recevait les arrivants à l'entrée de son logis où un buffet avait été installé, les frais devant être prélevés sur la recette. Puis il indiquait d'un geste aimable le petit escalier par où on descendait dans la cave où il avait installé la salle d'armes et le tir. Et il disait « Au-dessous, mesdames, au-dessous. L'assaut a lieu en des appartements souterrains. » Il se précipita au-devant de la femme de son directeur, puis, serrant la main de Duroy, « Bonjour, bel ami. » L'autre fut surpris. « Qui vous a dit que... » Rival lui coupa la parole. « Madame Walter, ici présente, qui trouve ce surnom très gentil. » Madame Walter rougit. « Oui, j'avoue que, si je vous connaissais davantage, je ferais comme la petite Lorine, je vous appellerais aussi bel ami. Ça vous va très bien. » Duroy riait. « Je vous en prie, madame, faites-le. » Elle avait baissé les yeux. « Non, nous ne sommes pas assez liés. » Il murmura. « Voulez-vous me laisser espérer que nous le deviendrons davantage ?»« Eh bien, nous verrons alors, » dit-elle. Il s'effaça à l'entrée de la descente étroite qu'éclairait un bec de gaz et la brusque transition de la lumière du jour à cette clarté jaune avait quelque chose de lugubre. Une odeur de souterrain montée par cette échelle tournante, une senteur d'humidité chauffée, de murs moisis essuyés pour la circonstance, et aussi des souffles de bain joint qui rappelaient les offices sacrés et des émanations féminines de lubin, de verveine, d'iris, de violette. On entendait dans ce trou un grand bruit de voix, un frémissement de foule agitée. Toute la cave était illuminée avec des guirlandes de gaz et des lanternes vénitiennes cachées en des feuillages qui voilaient les murs de pierres salpêtrées. On ne voyait rien que des branchages. Le plafond était garni de fougères, le sol couvert de feuilles et de fleurs. On trouvait cela charmant, d'une imagination délicieuse. Dans le petit caveau du fond s'élevait une estrade pour les tireurs, entre deux rangs de chaises pour les juges. Et dans toute la cave, les banquettes, alignées par 10, autant à droite qu'à gauche, pouvaient porter près de 200 personnes. On en avait invité 400. Devant l'estrade, des jeunes gens en costume d'assaut, minces, avec des membres longs, la taille cambrée, la moustache en croc, posaient déjà devant les spectateurs. On se les nommait, on désignait les maîtres et les amateurs, toutes les notabilités de l'escrime. Autour d'eux causaient des messieurs en redingote, jeunes et vieux, qui avaient un air de famille avec les tireurs en tenue de combat. Ils cherchaient aussi à être vus, reconnus et nommés. C'étaient des princes de l'épée en civil, les experts en coups de bouton. Presque toutes les banquettes étaient couvertes de femmes, qui faisaient un grand froissement d'étoffes remuées et un grand murmure de voix. Elles s'éventaient comme au théâtre, car il faisait déjà une chaleur d'étuve dans cette grotte feuillue. Un farceur criait de temps en temps « Orgeat, limonade, bière !» Madame Walter et ses filles gagnèrent leur place réservée au premier rang. Duroy, les ayant installés, allait partir et il murmura « Je suis obligé de vous quitter. Les hommes ne peuvent accaparer les banquettes. » Mais Madame Walter répondit en hésitant « J'ai bien envie de vous garder, tout de même. Vous me nommerez les tireurs ? Tenez, si vous restiez debout au coin de ce banc, vous ne gêneriez personne ?» Elle le regardait de ses grands yeux doux. Elle insista « Voyons, restez avec nous, monsieur, monsieur bel ami. Nous avons besoin de vous. » Il répondit « J'obéirai. Avec plaisir, madame. » On entendait répéter de tous les côtés « C'est très drôle, cette cave, c'est très gentil !» Georges la connaissait bien, cette salle voûtée. Il se rappelait le matin qu'il y avait passé, la veille de son duel, tout seul, en face d'un petit carton blanc qui le regardait du fond du second caveau comme un œil énorme et redoutable. La voix de Jacques Rival résonna, venue de l'escalier « On va commencer, mesdames !» Et six messieurs, très serrés en leurs vêtements pour faire saillir davantage le thorax, montèrent sur l'estrade et s'assirent sur les chaises destinées au jury. Leurs noms coururent. Le général de Rinaldi, président, un petit homme à grande moustache. Le peintre Joséphin Roudet, un grand homme chauve à longue barbe. Matteo de Ujar, Simon Ramoncel, Pierre de Carvin, trois jeunes hommes élégants et Gaspard Merleron, un maître. Deux pancartes furent accrochées aux deux côtés du caveau. Celle de droite portait « Monsieur Crève-Cœur » et celle de gauche Monsieur Plumeau. C'étaient deux maîtres, deux bons maîtres de second ordre. Ils apparurent, secs tous deux, avec un air militaire, des gestes un peu raides. Ayant fait le salut d'armes avec des mouvements d'automate, ils commencèrent à s'attaquer, pareil, dans leurs costumes de toile et de peau blanche, à deux pierrots soldats qui se seraient battus pour rire. De temps en temps, on entendait ce mot « Touché !» et les six messieurs du jury inclinaient la tête en avant d'un air connaisseur. Le public ne voyait rien que deux marionnettes vivantes qui s'agitaient en tendant le bras. Il ne comprenait rien, mais il était content. Ces deux bons hommes lui semblaient cependant peu gracieux et vaguement ridicules. On songeait aux lutteurs de bois qu'on vend au jour de l'an sur les boulevards. Les deux premiers tireurs furent remplacés par messieurs Planton et Carapin, un maître civil et un maître militaire. Monsieur Planton était tout petit et monsieur Carapin très gros. On eût dit que le premier coup de fleuret dégonflerait ce ballon comme un éléphant de baudruche. On riait. Monsieur Planton sautait comme un singe, monsieur Carapin ne remuait que son bras, le reste de son corps se trouvant immobilisé par l'embonpoint, et il se fendait toutes les 5 minutes avec une telle pesanteur et un tel effort en avant qu'il semblait prendre la résolution la plus énergique de sa vie. Il avait ensuite beaucoup de mal à se relever. Les connaisseurs déclarèrent son jeu très ferme et très serré, et le public confiant l'apprécia. Puis vinrent messieurs Porion et La Palme, un maître et un amateur qui se livrèrent à une gymnastique effrénée, courant l'un sur l'autre avec furie, forçant les juges à fuir en emportant leurs chaises, traversant et retraversant l'estrade d'un bout à l'autre, l'un avançant et l'autre reculant par bonds vigoureux et comiques. Ils avaient de petits sauts en arrière qui faisaient rire les dames et de grands élans en avant qui émotionnaient un peu cependant. Cet assaut au pas gymnastique fut caractérisé par un titi inconnu qui cria « Vous éreintez pas, c'est à l'heure !» L'assistance, froissée par ce manque de goût, fit « Chut !» Le jugement des experts circula. Les tireurs avaient montré beaucoup de vigueur et manquaient parfois d'à-propos. La première partie fut clôturée par une fort belle passe d'armes entre Jacques Rival et le fameux professeur belge Lebègue. Rival fut fort goûté des femmes. Il était vraiment beau garçon, bien fait, souple, agile et plus gracieux que tous ceux qui l'avaient précédé. Il apportait dans sa façon de se tenir en garde et de se fendre une certaine élégance mondaine qui plaisait et faisait contraste avec la manière énergique mais commune de son adversaire. « On sent l'homme bien élevé, disait-on. Il eut la belle, on l'applaudit. Mais depuis quelques minutes, un bruit singulier à l'étage au-dessus inquiétait les spectateurs. C'était un grand piétinement accompagné de rires bruyants. Les 200 invités qui n'avaient pu descendre dans la cave s'amusaient sans doute à leur façon. Dans le petit escalier tournant, une cinquantaine d'hommes étaient tassés. La chaleur devenait terrible en bas. On criait « De l'air! À boire !» Le même farceur glapissait sur un ton aigu qui dominait le murmure des conversations. « Orgeat, limonade, bière !» Rival apparut très rouge, ayant gardé son costume d'assaut. « Je vais faire apporter des rafraîchissements, » dit-il, et il courut dans l'escalier. Mais toute communication était coupée avec le rez-de-chaussée. Il eût été aussi facile de percer le plafond que de traverser la muraille humaine entassée sur les marches. Rival criait « Faites passer des glaces pour les dames !» 50 voix répétaient « Des glaces !» Un plateau apparut enfin. Mais il ne portait que des verres vides, les rafraîchissements ayant été cueillis en route. Une forte voix hurla « On étouffe là-dedans! Finissons vite et allons-nous-en !» Une autre voix lança « La quête !» Et tout le public haletant mais gai tout de même répéta « La quête! La quête !» Alors six dames se mirent à circuler entre les banquettes et on entendit un petit bruit d'argent tombant dans les bourses. Du roi nommait les hommes célèbres à Madame Walter. C'étaient des mondains, des journalistes, ceux des grands journaux, des vieux journaux, qui regardaient de haut la vie française avec une certaine réserve née de leur expérience. Ils en avaient tant vu mourir de ces feuilles politico-financières, filles d'une combinaison louche et écrasées par la chute d'un ministère. On apercevait aussi là des peintres et des sculpteurs qui sont, en général, hommes de sport, un poète académicien qu'on montrait, deux musiciens et beaucoup de nobles étrangers dont Duroy faisait suivre le nom de la syllabe « rast », ce qui signifiait « rastaquer » pour imiter, disait-il, les Anglais qui mettent « esque » sur leurs cartes. Quelqu'un lui cria « Bonjour, cher ami !» C'était le comte de Vaudrec. S'étant excusé auprès des dames, du roi alla lui serrer la main. Il déclara en revenant « Il est charmant, Vaudrec. Comme on sent la race chez lui !» Madame Walter ne répondit rien. Elle était un peu fatiguée et sa poitrine se soulevait avec effort à chaque souffle de ses poumons, ce qui attirait l'œil de Duroy, et de temps en temps, il rencontrait le regard de la patronne, un regard trouble, hésitant, qui se posait sur lui et fuyait tout de suite, et il se disait « Tiens, 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 est-ce que je l'aurais levée aussi, celle-là » Les quêteuses passèrent, leurs bourses étaient pleines d'argent et d'or, et une nouvelle pancarte fut accrochée sur l'estrade annonçant « Grande surprise !» Les membres du jury remontèrent à leur place. On attendit. Deux femmes parurent, un fleuret à la main, en costume de salle, vêtues d'un maillot sombre, d'un très court jupon tombant à la moitié des cuisses et d'un plastron si gonflé sur la poitrine qu'il les forçait à porter haut la tête. Elles étaient jolies et jeunes. Elles souriaient en saluant l'assistance. On les acclama longtemps. Mais elles se mirent en garde au milieu d'une rumeur galante et de plaisanteries chuchotées. Un sourire aimable s'était fixé sur les lèvres des juges, qui approuvaient les coups par un petit bravo. Le public appréciait beaucoup cet assaut et le témoignait aux deux combattantes qui allumaient des désirs chez les hommes et réveillaient chez les femmes le goût naturel du public parisien pour les gentillesses un peu polissonnes, pour les élégances du genre canaille, pour le faux joli et le faux gracieux, les chanteuses de café-concert et les couplets d'opérette. Chaque fois qu'une des tireuses se fendait, un frisson de joie courait dans le public. Celle qui tournait le dos à la salle, un dos bien replet, faisait s'ouvrir les bouches et s'arrondir les yeux. Et ce n'était pas le jeu de son poignet qu'on regardait le plus. On les applaudit avec frénésie. Un assaut de sabre suivit, mais personne ne le regarda car toute l'attention fut captivée par ce qui se passait au-dessus. Pendant quelques minutes, on avait écouté un grand bruit de meubles remués, traînés sur le parquet, comme si on déménageait l'appartement. Puis tout à coup, le son du piano traversa le plafond. Et on entendit distinctement un bruit rythmé de pieds sautant en cadence. Les gens d'en haut s'offraient un bal pour se dédommager de ne rien voir. Un grand rire s'éleva d'abord dans le public de la salle d'armes, puis le désir de danser s'éveillant chez les femmes. Elles cessèrent de s'occuper de ce qui se passait sur l'estrade et se mirent à parler tout haut. On trouvait drôle cette idée de bal organisée par les retardataires. Ils ne devaient pas s'embêter, cela. On aurait bien voulu être au-dessus. Mais deux nouveaux combattants s'étaient salués et ils tombèrent en garde avec tant d'autorité que tous les regards suivaient leurs mouvements. Ils se fendaient et se relevaient avec une grâce élastique, avec une vigueur mesurée, avec une telle sûreté de force, une telle sobriété de gestes, une telle correction d'allure, une telle mesure dans le jeu, que la foule ignorante fut surprise et charmée. Leur promptitude calme, leur sage souplesse, leurs mouvements rapides si calculés qu'ils semblaient lents, attiraient et captivaient l'œil par la seule puissance de la perfection. Le public sentit qu'il voyait là une chose belle et rare, que deux grands artistes dans leur métier lui montraient ce qu'on pouvait voir de mieux, tout ce qui était possible à deux maîtres de déployer d'habileté, de ruse, de science raisonnée et d'adresse physique. Personne ne parlait plus tant on les regardait. Puis quand ils se furent serrés la main, après le dernier coup de bouton, des cris éclatèrent, des hurrahs. On trépignait, on hurlait, tout le monde connaissait leurs noms, c'était Sergent et Ravignac. Les esprits exaltés devenaient querelleurs, les hommes regardaient leurs voisins avec des envies de dispute, on se serait provoqué pour un sourire. Ceux qui n'avaient jamais tenu un fleuret en leurs mains esquissaient avec leurs cannes des attaques et des parades. Mais peu à peu, la foule remontait par le petit escalier, on allait boire enfin. Ce fut une indignation quand on constata que les gens du bal avaient dévalisé le buffet, puis s'en étaient allés en déclarant qu'il était malhonnête de déranger 200 personnes pour ne leur rien montrer. Il ne restait pas un gâteau, pas une goutte de champagne, de sirop ou de bière, pas un bonbon, pas un fruit, rien, rien de rien. Ils avaient saccagé, ravagé, nettoyé tout. On se faisait raconter les détails par les servantes qui prenaient des visages tristes en cachant leur envie de rire. Les dames étaient plus enragées que les hommes, affirmait-il, et avait mangé et bu à s'en rendre malade. On aurait cru entendre le récit des survivants après le pillage et le sac d'une ville pendant l'invasion. Il fallut donc s'en aller. Des messieurs regrettaient les 20 francs donnés à la quête, ils s'indignaient que ceux d'en haut eussent ripaillé sans rien payer. Les dames patronesses avaient recueilli plus de 3 000 francs. Il resta, tout frais payé, 220 francs pour les orphelins du 6e arrondissement.